Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Vous écoutez la deuxième partie de l'interview de Ya-Han Chuang. Vous parlez aussi beaucoup de la jeune génération, donc la jeune génération qui notamment crée l'association AJCF, l'association des jeunes chinois de France, qui va commencer à lutter très concrètement contre les clichés véhiculés dans la société française et par les médias français aussi. Et donc, il porte plainte en 2012 contre l'hebdomadaire Le Point. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et qu'est-ce qu'ils ne veulent plus subir en silence et laisser passer avec cette action en justice ?
Oui, donc le magazine Le Point, en 2012, ils ont publié un article intitulé « La réussite intrigante des Chinois à Paris ». Donc, qu'est-ce qui est intrigant pour l'auteur de cet article ? C'est comment les entrepreneurs chinois ont réussi à, en tant qu'immigrés, ils ont comment réussi à s'enrichir. Et donc, dans cet article, en lisant, on n'est même pas sûr s'ils ont vraiment fait des enquêtes ou rencontré des entrepreneurs chinois pour en parler. Mais en tout cas, ils ont fait une liste des comportements et des règles d'or des entrepreneurs chinois pour leur réussite intrigante. Et quand on lit, ce sont des commentaires extrêmement stigmatisants. Par exemple, ils vont mentionner qu'ils ne payent pas des impôts, ou bien ils exploitent leurs salariés, ou même ils font des trafics humains, etc. Et du coup, l'ensemble de l'article a été constitué de ce temps entre méprise et commérage pour désigner l'ensemble de population chinoise, l'ensemble des entrepreneurs chinois comme une population qui ont des comportements illégaux, qui ne respectent pas la loi française et donc grosso modo qui ne méritent pas leur succès économique. Donc AJCF, ils ont porté plainte en collaboration avec l'association SOS Racisme pour le motif de diffamation. Et ça, après 2 ans de procès, ça a abouti à une réussite. Donc, ils ont gagné le procès et le Point était obligé de s'excuser et retirer leur article. Donc, cet article, aujourd'hui, on ne trouve plus, il a été retiré. Et je pense que ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit à quel point, en fait, l'image des entrepreneurs immigrés qui ont des comportements illégaux, qui violent la loi française. Du coup, toutes ces accusations deviennent donc le matériel brut de stigmatisation qui participe donc aujourd'hui dans tous les stéréotypes et clichés liés aux personnes chinoises. Et pour les membres de l'AJCF, c'était donc l'enjeu de porter ce plan, c'est aussi de réveiller la conscience sur les autres stéréotypes et des clichés concernant les populations chinoises.
Alors, il faut dire qu'à lire tous les clichés que vous citez et tout ce qu'ils doivent endurer dans leur vie quotidienne, par exemple les filles qui se font appeler sushi ou ni hao dans la rue, ça a l'air tellement fréquent, tellement courant. On comprend en fait qu'ils en aient assez. Et il y a aussi le fait qu'on leur demande souvent, vous expliquez ça, de se justifier chaque fois que la Chine est critiquée, que ce soit au moment des Jeux Olympiques de 2008 ou pour le Tibet, comme s'ils étaient responsables, alors que souvent ils ne sont même pas nés en Chine et quelquefois qui n'y sont jamais allés, et sans parler des enfants adoptés qui, eux, n'ont même pas grandi dans la culture chinoise à la maison et qui, parce qu'ils ont un physique asiatique, sont aussi assimilés à tout ça et subissent tous ces préjugés. Et on voit que, comme souvent avec le racisme, c'est la grande valse des amalgames. Vous faites d'ailleurs le parallèle avec les enfants d'immigrés originaires d'un pays musulman qui, eux, sont régulièrement confrontés au discours sur l'antiterrorisme. Et vous dites, page 135, « Plus question qu'ils continuent à se laisser enfermer dans une stigmatisation qui les fait autres que ce qu'ils sont. » Ce travail d'affirmation de cette nouvelle génération, il est nécessaire, il est important pour eux, mais aussi pour rectifier tous ces préjugés. Est-ce que c'est juste une minorité aujourd'hui dans la jeune génération qui prend conscience et qui se bat pour ça, ou est-ce que c'est un mouvement qui gagne vraiment de l'ampleur ?
Oui, c'est pas facile à mesurer l'ampleur, parce qu'effectivement, j'avais surtout rencontré des personnes les plus conscientisées. Et c'est vrai que ça pourrait être un processus très très long pour prendre conscience pourquoi c'est injuste de nous appeler comme ça. Et c'est ça la définition du racisme aussi, parce que la définition du racisme, c'est on assigne une identité, une image collective pour un individu, du coup on l'associe automatiquement à toutes les caractéristiques qu'on peut associer avec ces populations. Et alors que c'est un pouvoir souvent venant de la population majoritaire. Mais le problème, c'est que effectivement le fait de ne pas se rend compte de cette position dominée quand on était petit ou quand on est dans un environnement qui n'a pas pris conscience de ça, du coup, ça pourrait empêcher la prise de conscience. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Internet fournit une plateforme pour toutes ces personnes isolées arrivent à s'orienter, à partager leur expérience jusqu'à la construction d'une conscience de résistance. Je peux vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est la création de l'AGCF qu'on a cité tout à l'heure. Du coup, l'AGCF a été fondée en 2008. Beaucoup des jeunes, ils ont discuté de leur expérience via la plateforme à Facebook et ça a commencé juste par un partage de colère ou de sentiments de perplexe sur le fait d'être désigné comme chinois et donc comme anti-démocratie, comme personne qui viole le droit humain au moment de polémiques sur le massacre à Tibet et le passage de flammes de Jeux olympiques à Paris. Donc rapidement, du coup, cette association devient donc une association pour réfléchir sur quelle est l'identité pour les jeunes chinois en France. Et ensuite, le deuxième exemple, c'est donc au moment de Covid, quand on est tous enfermés chez nous pendant le confinement. Je pense que le confinement nous a vraiment poussé à exploser toutes nos vies émotionnelles, intellectuelles, intimes sur Facebook, sur l'Internet, les réseaux sociaux. Et là, on voit donc Instagram ou d'autres réseaux sociaux devient une plateforme pour les différentes personnes de se retrouver et partager leur expérience, y compris l'expérience d'être minoritaire. Et notamment, ça c'est notamment le cas pour beaucoup des enfants adoptés qui ont donc toujours grandi dans un environnement où ils sont extrêmement minoritaires, où ils sont désignés comme différents simplement à cause de leur origine physique. Ou apparence oui. physique. Voilà. Mmh. Et ils ont pourtant, ils n'avaient pourtant pas des outils culturels ou des ressources culturelles qui leur permettent de mieux définir eux-mêmes entre une identité assignée et une identité de leur propre expérience. Et l'Internet devient donc une ressource, une plateforme qui les permet à rencontrer d'autres personnes ayant les mêmes expériences et d'échanger jusqu'à discuter des initiatives possibles, créer d'autres déclarations ou produits de production littéraire, musicale, vidéo, etc. Donc je pense que ça sera sans doute une tendance qui continue.
Vous citez aussi les principaux reproches qui sont régulièrement adressés à cette communauté et vous expliquez bien, puisque ce n'est pas quelque chose d'affectif, c'est quelque chose du domaine de la recherche, de la science, de la sociologie qui est votre domaine. Et du coup, on voit des reproches qui sont plus ou moins justifiés. Il y a les malentendus, il y a les illusions, il y a quelquefois des choses qui partent d'une vraie base qui a pu être fantasmée ensuite aussi. Et donc, ces principaux reproches qui sont régulièrement adressés à cette communauté, parmi eux, on trouve le fait, je pense qu'en France, tout le monde l'a entendu, le fait de rester dans un entre-soi pour la communauté chinoise, et aussi de reprendre les bars tabac, d'avoir une organisation assez opaque. Comment travaille la jeune génération qui a entrepris de lutter contre les clichés par rapport à ces reproches qui sont vraiment très installés dans la société française ?
Oui, effectivement, la question entre soi, encore une fois, ça reflète le rapport de pouvoir entre la majorité et minorité. Je pense qu'on l'a déjà beaucoup vu et beaucoup lu pendant le controverse sur la question de non-mixité à l'UNEF. La population majoritaire aura tendance à reprocher la population minorité d'être fermée ou de rester dans un entre soi au nom d'une non-mixité. Alors que dans beaucoup des milieux élitistes, en effet, ça reste très souvent très homogène dans le sens du genre ou de classe sociale et aussi de l'apparence, même parfois en termes de religion aussi. Mais du coup, les jeunes aujourd'hui, je pense qu'ils ont, depuis 2010, ils ont installé plusieurs répertoires d'action. Il y a la répertoire d'action plus institutionnelle, comme au sujet de l'insécurité et du racisme. Pour ces problèmes publics, très souvent, ils arrivent à combiner des manifestations dans l'espace public et des répertoires d'action, des approches juridiques en portant le plan suivant par des manifestations ou par des conférences de presse qui pourraient ensuite conduire à la possibilité de dialoguer avec les instances publiques. Donc, par exemple, après les manifestations de 2016, il y a quand même plusieurs comités de pilotage qui ont été faits pour favoriser le dialogue, entre la communication entre les associations chinoises et la préfecture ou la mairie. Aujourd'hui, on témoigne aussi l'émergence des nouvelles répertoires d'action qui sont beaucoup plus importantes dans le domaine culturel. Donc ça, c'est notamment la jeune génération qui sont donc français et françaises qui souhaitent une meilleure représentation dans le sens culturel, dans l'arène du cinéma, de téléfilm, de musique, etc. pour déconstruire cette hiérarchie culturelle construite par les dominantes, en fait. Et encore une fois, du coup, il y a l'internet qui reste un espace extrêmement important. Et on voit donc les jeunes blogueurs ou écrivains ou journalistes, ils créent leurs propres médias. Tout ça, ce sont des mouvements après 2016. Donc on a aujourd'hui un magazine qui s'appelle Koi, intitulé Koi. En fait, Koi, ça vous a dit, c'est le nom japonais d'un saumon, pardon, d'une poisson qui pourrait nager contre le courant. Donc à la fois, il y a des références sur la langue japonaise, mais aussi images de communautés asiatiques en France qui essaient de nager contre le courant. Et quand on dit contre le courant, on dit aussi parler de tabous, de défier les non-dits et la norme construite par la majorité depuis longtemps. Et on a aussi des web-séries, une web-série qui est intitulée « Ça reste entre nous ». Du coup, là, c'est donc une série, selon son titre, c'est donc une série non-mix où on invite que des jeunes asiatiques qui viennent parler de tous les préjugés, les clichés qu'ils ont subis pendant l'enfance, mais qui partagent aussi avec joie sur comment ils ont grandi, c'est-à-dire du coup on retourne le stigma. Au lieu de laisser des images très négatives de circuler, en fait on va parler concrètement notre attachement à certaines nourritures, à certaines traditions familiales, culturelles, etc. justement de démystifier les préjugés, en fait, de parler de leur expérience. Et ce qui est intéressant, c'est que si on va sur la page YouTube de cette web-série, en fait, on verra les audiences qui ont laissé des commentaires. Ils ne sont pas que des Asiatiques. En fait, il y a aussi beaucoup d'autres minorités qui viennent, qui lisent, qui disent qu'en fait, c'est agréable de voir cette façon de discuter entre nous, de notre culture, de notre struggle, de notre confusion, etc. Mais c'est agréable de voir ça, de pouvoir partager ça de manière honnête et sans complexe. Donc, toutes ces productions qui ont été faites par les jeunes asiatiques, je pense que ça va finir par rejoindre aussi un mouvement culturel beaucoup plus grand pour demander plus de une représentation plus juste et équitable des minorités dans le domaine cinéma et dans le domaine de culture, ce qui sera donc la voie utile aussi pour remettre en cause l'hégémonie culturelle aujourd'hui qui nous domine et qui continue à favoriser certains préjugés et clichés jusqu'à une sorte de racisme systémique. Donc aujourd'hui, on a donc une voie publique, politique, juridique sur le problème public, et une autre voie culturelle qui est moins exposée, mais plus profonde, qui essaie de changer le racisme à partir du problème, de structure, du fond, en fait.
Alors, pour les plus jeunes, ce qui ressort aussi de façon assez marquante, mm-hmm. c'est un profond sentiment de solitude qui revient plusieurs fois dans le livre, dans les témoignages. Donc on comprend bien avec ce que vous venez de dire que voilà, maintenant les réseaux sociaux, le fait qu'il y ait des groupes sur les réseaux sociaux qui commencent à fédérer et les jeunes peuvent partager un peu ce qu'ils ressentent, mais ce profond sentiment de solitude, il est quand même persistant, il est là depuis assez longtemps parce que les familles travaillent beaucoup, ont des horaires, comme on l'a dit, assez extensibles, assez fous. Et aujourd'hui, ce sentiment de solitude, est-ce qu'il est, de tous ces témoignages, de ces jeunes, est-ce qu'il est dû essentiellement à un manque de présence du reste de la famille, c'est un isolement, ou est-ce que c'est cette difficulté à échanger avec le reste de la société française?
Oui, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de facteurs qui se jouent. Déjà, il y a le rapport avec les parents. Quand les parents sont immigrés, en fait, très souvent, ça c'est universel à tous les groupes immigrés, c'est que les parents, ils connaissent moins bien le système scolaire français. On a un espoir commun que nos enfants réussissent à l'école, mais on n'a pas forcément des outils, des compétences pour aider nos enfants. Du coup, les enfants ont souvent un sentiment qu'ils devraient se débrouiller en bricolant certaines stratégies pour pouvoir réussir. Et certains enfants, ils se trouvent même obligés de aussi aider leurs parents ou les adultes. C'est-à-dire que c'est plutôt eux qui parlent français, qui va aider leurs parents et des autres adultes dans leur entourage de faire la démarche administrative. Tout ça, du coup, ça met beaucoup de choses sur les épaules de tous ces jeunes enfants. Ensuite, la solitude, ça pourrait aussi venir aussi de justement cette trouble d'identité. C'est-à-dire que l'environnement continue à nous dire qu'on est différente que les autres. Mais en fait, en même temps, dans les arènes culturelles, on a du mal à nous voir. Du coup, ce sentiment d'être singulière et bizarre, ça pourrait renforcer ce sentiment de solitude. Et c'est pour ça que la représentation culturelle est comme importante. Beaucoup de jeunes adolescents, même des jeunes ados, ils m'ont parlé de ce sentiment de solitude. Et Payo, c'est souvent ça qui les ont incités à entamer une très longue aventure de chercher à comprendre qui je suis et comment affirmer moi-même, en fait, comment être à l'aise dans mon multiple origine culturelle, sociale.
Alors, vous notez, page 187, que, je cite, « Les Asiatiques sont en effet rarement inclus dans les problématiques discriminatoires en France, que ce soit dans le débat public ou dans l'environnement scolaire, et ils ont du mal à identifier le racisme dont ils sont victimes, ce qui installe en eux un malaise qui peut difficilement se dire. Et page 185, vous écrivez: pour ce qui est des jeunes Asiatiques que j'ai interviewés, leurs observations rejoignent celles des Maghrébins de France. Même si beaucoup d'entre eux ont déjà fait l'objet d'agressions et de discriminations ethno-raciales dans leur enfance ou leur adolescence, la colorblindness, donc indifférence à la couleur de peau, de l'école républicaine et le manque de discussion sur le racisme au sein de la famille les empêchent de saisir l'articulation qui se joue entre ces violences et leurs origines. Ainsi, il faut souvent attendre l'âge adulte pour que leur sensibilité aux discriminations soit suffisamment développée et qu'ils parviennent à comprendre que les violences auxquelles ils ont été confrontés sont une forme d'expression du racisme et qu'elle est liée à leurs origines. En fait, on se rend compte, et aussi au travers des interviews que j'ai fait avec des jeunes femmes racisées, noires, que cette problématique, elle est commune, j'ai l'impression. C'est-à-dire que finalement, c'est pas forcément... Bon, il y a des, quand on se fait appeler sushi ou nem, c'est assez clair, mais il y a beaucoup de choses qui sont dans un racisme un peu latent, qui dit pas son nom, et finalement qui installe quand même des personnes racisées, des personnes stigmatisées dans un racisme qui est diffus, et elles-mêmes finalement ne se rendent pas compte qu'elles sont victimes de racisme. Donc c'est difficile effectivement de s'en sortir, de rétablir une image correcte sur soi-même, sur ses origines, sur une communauté à laquelle on appartient, quand c'est pas très clair, quoi.
Oui, effectivement. Là encore une fois, on est dans la question de l'hégémonie et une hégémonie qui est qui passe tous par des sous-entendus. Donc pour beaucoup des jeunes, donc, le fait que en France, dans l'éducation nationale, on a du mal à parler du racisme, à admettre la différence ou les inégalités ethno-raciales, ça retarde pour beaucoup la possibilité de reconnaître et de remettre en cause leur expérience de discrimination, parce qu'on n'a pas des outils. C'est un peu comme par exemple si on prend l'exemple de l'inceste quand on était petit, du coup si on nous a jamais dit que c'est pas correct que les proches nous touchent ou nous font des choses ou nous agressent, en fait on va penser que c'est normal, même si ça nous rend inconfortable, même si ça nous fait mal. Donc en fait, pour les victimes de discrimination raciste, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il faudra beaucoup de temps pour remettre en cause la hiérarchie de domination et pour arrêter d'être envié des autres, de ceux qui sont dans la norme, et de construire une confiance pour nous-mêmes. Donc j'ai rencontré beaucoup de jeunes femmes qui m'ont dit que quand j'étais jeune, je voulais, pour moi, être belle, c'est être blanche. Mais si on a une peau qui est donc naturellement pas blanche, comment on pourrait être belle? Ou bien comment on pourrait se sentir belle si on change pas notre canon de beauté apprise par la société? Donc le problème, elle est là. Donc il faudrait, c'est vraiment un très long combat pour pouvoir d'abord prendre conscience de tous ces canons, de tous ces normes qui sont inscrits dans une structure d'inégalité ethno-raciale profonde, et ensuite de construire notre propre confiance en étant différente et en étant minorité.
Oui. Ah oui. Alors en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on voit que tous ces efforts déployés vraiment à tous les niveaux là, que l'on a déjà décrits pour que tout ce petit monde vive mieux ensemble, donc il y a eu énormément d'efforts. Et puis début 2020, patatras, le coronavirus arrive, les médias diffusent largement que ce virus vient de Chine, c'est rappelé systématiquement. Et alors là, c'est un déferlement d'insultes, d'appels à la haine, d'agressions verbales. On retourne en arrière et même c'est démultiplié. Des agressions virtuelles, mais aussi physiques. Vous rappelez que le 28 octobre 2020, aussitôt après l'annonce officielle du reconfinement, un appel à agresser chaque Chinois dans les départements d'Île-de-France est publié et relayé sur Twitter. et sera suivi d'effets, puisque plusieurs cas d'agression seront signalés, et même sur des enfants à l'école. Et tout ça se répand dans le sillage du coronavirus. Que se passe-t-il? Et là, c'est vrai qu'il y a eu des exemples dans les médias qui ont attisé ce problème. On a eu le président des États-Unis, Trump, qui aussi n'a pas aidé. Qu'est-ce qui se passe que d'un seul coup, tout se désinhibe et qu'on reparte en arrière? Et ça semble balayer tous les efforts qui ont été faits.
Oui, effectivement, on a parlé au début de l'entretien les origines du racisme asiatique, elle est multiple. Donc, il y a à la fois des stigmatisations, des clichés très récents, comme tout ce qui est attaché aux entrepreneurs chinois, mais on a aussi, historiquement, une imaginaire de péril jeune, une peur sur la population chinoise ou asiatique qui les imagine comme un autre éternel. Et là, du coup, cette peur profonde, elle a donc été déclenchée au moment du coronavirus. Quand le virus a été découvert en Chine, je pense que, encore une fois, ça a donc révoqué toutes les représentations qui imaginent la Chine comme un pays arriéré. Concept de période jeune et qui pourrait donc projeter sur les populations chinoises et imaginer comme des populations qui ont des pratiques alimentaires arriérées et qui se conjuguent même avec la peur et la haine de la mondialisation chinoise contemporaine incarnée par leur superpuissance économique politique. Donc au moment de la COVID-19, tous les avis, tous les sentiments d'une Chine indésirable se projetant sur les populations perçues comme chinoises. Ce qui explique l'appel à la haine, l'appel à l'agression, ce qui explique aussi des propos extrêmement réducteurs de Donald Trump qui insistait à appeler le coronavirus le virus chinois. Donc on voit bien les origines géopolitiques derrière la généralisation d'un racisme anti-chinois aujourd'hui.
Et donc vous expliquez que cette nouvelle étape de racisme agressif et désinhibé va faire surgir une nouvelle vague de prise de parole et d'initiative de personnes d'origine asiatique, et vous en avez parlé déjà un petit peu, au travers de comptes Instagram, de podcasts, de graffitis, de groupes de parole, de rencontres aussi dans le monde réel entre les confinements. Il y a aussi un appel lancé par de jeunes asiatiques au nom des Asiatiques antiracistes, un collectif qui appelle à la convergence des luttes antiracistes avec les autres minorités. On a l'impression qu'il y a un versant positif aussi qui sort finalement de tout ça et que ça renforce la détermination de la jeune génération à ne pas se laisser enfermer, à aller plus loin dans tout ce qui a été entrepris pour déstigmatiser, pour ne pas... C'est ça, et en fait, à ces nouvelles étapes un peu difficiles où on a eu l'impression de repartir en arrière, elles ont stimulé en fait des nouvelles initiatives pour ne plus laisser passer ces stigmatisations.
Oui, je pense que ce qui est intéressant avec ces nouvelles approches de militantisme, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les approches anti-racistes parmi les Asiatiques devient pluriel, aussi pluriel comme la composition, la diversité des populations asiatiques. Parce qu'en fait, asiatique en soi, c'est aussi l'Asie, en soi, c'est aussi un concept qui est géographiquement difficile à définir. En fait, c'est extrêmement pluriel, extrêmement oui. Riche. Il y a plus
et très vaste géographiquement.
Il y a
aussi
presque 50 oui. pays dont ce qui est désigné comme asiatique par les pays européens. Et alors qu'en fait, on n'a rien à voir entre quelqu'un qui a grandi dans Sibérie et d'autres jeunes qui sont nés à Thaïlande ou Bangladesh. Donc, je pense que Si avant le coronavirus, la question du racisme anti-asiatique, elle a été un peu dominée par la question des agressions, même si les jeunes déjà commencent à réfléchir sur les stéréotypes, essayer de déconstruire tous les stéréotypes et clichés racisés. Mais là, au moment du coronavirus, du coup, ça a motivé d'autres personnes qui sont asiatiquées, c'est-à-dire qu'ils ont pas forcément une identité très forte donc asiatique avant le coronavirus, mais ils ont été désignés, étiquetés comme asiatiques à cause de regard l'extérieur. Et là, à ce moment, du coup, pour eux, ils ont rejoint donc la lutte anti-raciste avec leur propre réflexion, et certains avec leur bagage militant déjà préexistant dans le mouvement pour le droit de LGBT, ou dans le mouvement féministe, ou dans le mouvement antifasciste. Donc ça devient un champ extrêmement riche grâce à tous ces nouvelles jeunes qui ont rejoint la lutte pour réfléchir sur les origines du racisme anti-asiatique, et aussi pour réfléchir sur le récit des combats. Donc aujourd'hui, la lutte elle est plurielle. Il y a aussi beaucoup de questions qui se posent par rapport à la convergence des luttes avec d'autres minorités, en fait.
Oui, et ça se met en place. Il y a des choses qui se mettent en place.
Il y a des discussions, et par ailleurs, pour beaucoup des militants communs, ça reste des gens qui se voient, qui se fréquentent dans des milieux associatifs. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore des luttes, des actions conjointes très visibles. Mais à un moment venu, je pense que quand il y a des sujets qui concernent tout le monde, on pourrait imaginer une sorte de collaboration.
Oui, parce que par exemple, il y a eu des actions pour la représentativité justement dans le cinéma ou sur nos écrans de télévision.
Oui.
Une meilleure représentativité justement. Là, est-ce que les différents groupes ont réussi, les différentes minorités ont réussi à parler ensemble ou pas encore?
Oui, là, effectivement, je pense qu'il y a un mouvement qui est en train de se créer sur ces questions justement. Parce que là, effectivement, étant minorité noir ou maghrébin ou asiatique, je pense qu'on a tous les mêmes sentiments d'injustice et d'un manque de représentation. Et le fait qu'on travaille tous dans le même monde professionnel et on se connaît déjà, on s'est déjà rencontré dans le monde de travail, je pense que ça peut aussi favoriser la collaboration.
Vous avez participé aussi, il y a un an, j'ai vu ça sur Internet, le 7 juillet 2020, à une discussion. Enfin, je ne sais pas comment l'appeler, la vidéo en fait de cette rencontre à distance et sur la chaîne Dailymotion de l'Assemblée nationale, intitulée « Émergence et évolution des différentes formes de racisme ». Donc vous participiez, vous, en tant que sociologue de l'INED, et Madame Simeng Wang du CNRS. Est-ce que vous sentez un peu plus d'intérêt de la part des responsables politiques, et est-ce que vos interventions surtout ont été suivies de mesures, ou est-ce que ça a fait bouger les choses ou pas encore?
Depuis le livre a paru, du coup, effectivement, j'ai été sollicité aussi par certaines instances publiques, y compris des politiques de la ville, de la mairie de Paris, pour parler de participer au séminaire de formation pour parler de mes connaissances. Par ailleurs, je ne parle pas seulement racisme parce que je travaille à l'INED. Donc, en fait, dans notre enquête, on étudie aussi l'évolution de la mobilité immigrée et l'évolution démographique au sein de cette population. Et ce sont quand même ce sont aussi des données très tangibles pour mieux comprendre les origines et les dynamiques de racisme et de discrimination. Donc, effectivement, oui, il y a de l'intérêt public. Donc, le phénomène existe et que les actions des jeunes puisque ce sont quand même très visibles dans les arènes médiatiques. Donc, oui, il y a une prise de conscience de public, de l'ensemble public qui voudrait mieux comprendre ce racisme qui a été longtemps ignoré.
Oui. Et alors, dernière question, au moment où on se parle, est-ce que la situation qui évolue très vite, surtout depuis ce début de coronavirus, dans le bon côté, dans le mauvais côté, est-ce que cette situation a encore évolué est-ce qu'il y a des choses à signaler depuis que vous avez terminé l'écriture de ce livre? Est-ce qu'il y aurait déjà des mises à jour à faire?
Bah, je pense aujourd'hui il y a comme un sujet un peu, il y a un sujet un peu perturbant, c'est puisqu'on a évoqué que la haine pour la Chine, c'est bah, il y a le racisme primordial, le racisme anti-asiatique, mais il y a aussi aujourd'hui il y a aussi la sinophobie qui ont participé au racisme anti-asiatique. Donc aujourd'hui, ce qu'on pourrait se sentir, c'est finalement avec la visibilité internationale de la Chine, et y compris la gestion ou la gestion des droits humains au sein de la Chine. Donc ça devient aussi des questions clivantes au sein des populations asiatiques qui donc il semble de plus en plus des personnes, peut-être pas tous les Asiatiques, mais au moins les personnes de descendance chinoise commencent à se sentir très souvent qu'ils devraient prendre position pour, par exemple, pour la question de Xinjiang, de Ouïghours
Ah oui,
en
ça c'est
Chine.
oui, c'est ce dont on entend quasiment le plus parler aujourd'hui.
Oui, ça devient un sujet clivant. Et d'autres, et d'un autre côté, il y a aussi une confusion. Est-ce que dénoncer la pratique d'humanité en Chine voulait dire être raciste envers les Chinois ou les Asiatiques? Je pense aujourd'hui à une sorte de confusion aux deux côtés, en fait, dans ces deux sens, je veux dire.
Oui.
Mais effectivement, c'est pas nouveau parce que dans ce mécanisme-là, par rapport à la question d'identité et d'appartenance des personnes diaspora, je pense que les jeunes, la population juive, ils ont déjà bien connu ça vis-à-vis de conflits Palestine, israélienne.
Oui, voilà, j'y pensais pendant que vous parliez. Oui, on retrouve un peu ça aussi,
C'est vrai, on
c'est-à-dire.
retrouve un peu le même schéma et des confusions. Donc, je pense que c'est une nouvelle question à réfléchir, à observer aussi. À la fois sur sa capacité, son potentiel de racialisation vis-à-vis des personnes asiatiques, et aussi son influence, son impact de légitimation ou délégitimation dans le champ militant sur certaines causes politiques et actions. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à observer et
Et
aussi
alors, est-ce que
à
vous,
rester prudent.
oui, et vous continuez d'observer, vous avez d'autres sujets en cours de futurs, je
Non,
sais pas, livres ou
non,
recherches ou...
non, pour l'instant, justement, j'aimerais bien travailler sur la question de représentation des minorités dans le monde cinéma et culturel. En fait, c'est exactement ça le prochain sujet qui m'intéresse. Parce que, comme je dis, je passais beaucoup de temps à étudier les actions, les politiques formelles dans
Oui.
manifestations, associations, mobilisation dans le tribunal, etc. Mais plus je travaille sur ça, plus je me suis rendu compte que la question profonde, c'est la question de hiérarchie culturelle et de la norme aussi. Et moi, j'ai été amenée en France parce que j'avais adoré le cinéma français quand j'étais à Taïwan.
Ah oui.
Mais aujourd'hui, après avoir vécu 10 ans en France, je commence à aussi à me rendre compte de l'homogénéité de ce milieu et voilà de certaines similitudes de petits réseaux d'élites qui produisent toujours des choses plus ou moins similaires et un problème de représentation par rapport à d'autres milieux de vie et surtout d'autres acteurs et actrices en fait. Donc d'autres façons de raconter l'histoire, d'autres façons de voir, de présenter la société française. Donc oui, ça.
Et il semble que le dernier festival de Cannes, après s'être fait beaucoup bousculer, comme les Oscars, les années précédentes, justement par des personnes qui ont commencé à dénoncer très concrètement, très ouvertement, ces problèmes-là, il semble qu'ils aient essayé de lancer des signaux un peu différents là, sur cette dernière édition. Mais on voit qu'il faut quand même vraiment secouer les choses pour que ça,
Bah, on a quand
pour
même
que.
un président de jury qui est Spike Lee, donc
Mais oui, voilà.
c'est déjà un bon départ. Donc,
Voilà, et puis oui, et puis on voit que bon, quand même, on sent que ça bouge pas si on ne secoue pas les choses, mais en les secouant, ça commence à bouger, et puis des nouvelles générations arrivent aussi qui sont assez conscientes, assez mobilisées, qui grandissent avec les réseaux sociaux, qui savent aussi se mettre en réseau au niveau de l'information. Bon, il y a du bon et du mauvais évidemment dans tout ça, mais je trouve que le bon côté, c'est aussi de partager des bonnes informations qui permettent de s'éduquer, de plus réfléchir, de comprendre aussi, puisque comme vous le disiez, le racisme, c'est aussi quelque chose de complexe, et que l'on soit dans ceux qui peuvent perpétrer le racisme ou dans ceux qui le subissent, je trouve que c'est intéressant d'essayer de comprendre déjà les deux côtés, et puis de remettre en question ce dans quoi on a grandi. Moi, je sais que j'avais fait une interview de Nell Irving Painter, qui est une grande historienne américaine, qui a fait un livre qui s'appelle L'histoire des Blancs, où en fait elle repart plusieurs siècles en arrière sur la construction de la blanchité. C'est très très intéressant. Et tous les mouvements littéraires, artistiques qui ont pu contribuer à ce que cette couleur devienne une référence, au point que les personnes qui ne sont pas de cette couleur, comme vous le disiez, et quelles que soient les autres couleurs, malheureusement, toute la gamme immense d'autres couleurs que le blanc, tout ce que ça peut créer de choses terribles au niveau estime de soi, au niveau santé, puisque après il y a toutes les questions pour correspondre à un modèle, au niveau de s'éclaircir la peau, au niveau d'avoir les cheveux de tel ou tel, pour correspondre à ces modèles-là, ça fait des dégâts en fait dans le monde entier, quoi. Toutes ces, maintenant, de cette histoire de représentation, d'hégémonie, comme vous disiez, donc c'est pour ça que je vous remercie d'avoir accepté de longuement discuter de ce livre. Je vous remercie aussi de l'avoir écrit et d'avoir fait tout ce travail qui, vraiment, que je recommande à tout le monde de lire, et surtout dans les domaines de politique, de l'éducation, parce que c'est très important que l'on prenne plus conscience vraiment dans nos systèmes éducatifs qu'il y a des choses à faire bouger et à comprendre. Donc votre livre s'appelle Une minorité modèle, Chinois de France et racisme anti-asiatique. C'était publié aux éditions La Découverte. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, si vous êtes sur le site internet de Sosuite Planète, dans le texte du podcast, vous trouverez les liens pour pouvoir directement commander ce livre, l'acheter sur le site de Librairie Indépendante, et aussi si vous êtes sur une application de podcast, comme d'habitude, dans le descriptif du texte de cet épisode, vous pourrez trouver un lien aussi pour aller acquérir de suite ce formidable livre. Merci beaucoup, Yan Han Chuang. Je vais essayer de bien prononcer.
Merci beaucoup, merci pour cette interview stimulante, merci.
Merci à vous, et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver ultérieurement pour parler des nouvelles avancées, surtout de vos nouvelles recherches qui, je pense, vont être passionnantes sur ce que vous nous avez dit.
Oui, il faut encore des années là, mais oui, j'aimerais bien. J'espère que ça pourra être un autre compas intéressant qui me donnera plein de choses à raconter. C'est sûr.
Oui. En attendant d'avoir ce nouvel épisode de vos recherches, puisque vous dites que ça va être assez long, est-ce que on peut vous suivre sur certains réseaux sociaux pour voir ce que vous partagez, ou pour
non, je suis pas très. Là, il y a une page. J'ai fait une page Facebook pour le livre, mais sinon, je suis pas très. Voilà, je suis pas quelqu'un qui écrit toutes mes réflexions et de le mettre à jour sur Instagram.
C'est quelquefois pour transmettre des informations, des choses.
Oui, il faut que tu réactives ma page personnelle. J'ai une page personnelle, mais plus chercheur, c'est-à-dire je mets des publications. Mais oui, sinon, je suis pas très active sur les réseaux.
Ok. Yan Han Chuang, merci vraiment encore, et très bonne continuation.
Merci.
Je vous souhaite. J'étais ravie de vous accueillir sur Sosuite Planète, et vraiment j'espère que vous allez continuer ce travail de fond que vous faites qui nous permet de mieux comprendre et de mieux vivre ensemble en fait au final.
Merci. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de Sosuite Planète, N'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.